sur le sujet, quoi. Alors, ça se présente comme l'année dernière. Rosh Hashanah d'abord, après Kippour et après Sukkot. Et j'avais déjà, je crois que j'en ai parlé l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, l'événement qu'on a, c'est Kippour. Ce Kippour, c'est le moment où on reçoit les deuxièmes louchot, le moment où on sait que Hachem a pardonné la faute du veau d'or et Moshe Rabbeinu a obtenu que les choses redeviennent normales. Alors, Rosh Hashanah, ça va se définir, on a déjà parlé de ça l'année dernière, il y a 2 ans, ça se définit plutôt comme par rapport à Kippour. C'est pas Kippour qui est 10 jours après Rosh Hashanah, mais c'est plutôt Rosh Hashanah qui est 10 jours avant Kippour. Et si Kippour est central, ça veut dire que ce qui se passe à Kippour, c'est ça le grand problème, le grand sujet. Et ce grand sujet, en fait, on sait bien ce que c'est. Le grand sujet, c'est effectivement l'accaparat. Et vu de notre côté, le grand sujet, c'était la avoda du Kohen Gadol. C'est aujourd'hui notre travail à nous, puisqu'il n'y a plus de Kohen Gadol pour faire le travail pour nous. Et le travail en question, c'est un travail de tshuva. Et dans Rambam, le Rambam il dit que le maasé de tshuva, dans une mitzvot, en général, il y a un maasé, la plupart du temps. Le maasé de la tshuva, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est une déclaration, c'est une parole, c'est quelque chose qui doit s'exprimer. Et le but de ce vidouille, c'est d'obtenir la tshuva, d'obtenir le retour, le fameux retour. Le retour à quoi, en quelque sorte? Le retour à cette situation normale. Et c'est quoi la situation normale? Si on parle de situation normale, ça veut dire qu'il y a une situation anormale. La situation anormale, bien entendu, c'est la situation qui a été causée par nos fautes. Nos fautes ont créé une situation anormale. Alors, à l'extrême, c'était cette situation par laquelle on a passé jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu obtienne le pardon divin. C'était à un moment donné, le clan Israël, il a même été condamné à mort. Et puis, et après, quand Hachem a accepté, il a commencé par accepter, oui, d'accord, je vais pas vous détruire complètement, mais vous n'aurez plus la ligne directe avec moi, c'est-à-dire il y aura un malach par lequel les choses vont passer. Et là, à ce moment-là, Moshe a mis toute sa vie en jeu. Il a dit, si c'est comme ça, tu peux m'effacer de ton livre. Je n'accepte pas pour le clan Israël que le clan Israël ait un statut analogue à celui des autres peuples, c'est-à-dire qu'il y ait un malach ou un Elohim qui nous dirige. Je veux qu'on retrouve la ligne directe avec toi. Et finalement, Hachem a cédé. Donc voilà, ça c'était la situation anormale. La situation anormale, c'est une situation de mort et au mieux d'une situation dans laquelle on n'a plus la relation directe avec Hachem. Et à Kippour, on a obtenu le pardon de la faute, on a retrouvé une situation normale et on est appelé toutes les années à retrouver une situation normale parce que on a fabriqué une situation anormale situation dont on pourrait dire que c'est une situation de mort, une situation de, où on a perdu la relation directe avec Hachem. En fait, ce qui s'est passé en quelque sorte, c'est que on a fait des fautes. Et les fautes, bonsoir Jacques, la situation normale, si vous voulez, c'était d'avoir cette relation avec Hachem, et on a fait des fautes qui ont cassé la relation avec Hachem. C'est-à-dire, on est dans un état anormal. Et il s'agit de restaurer cette normalité. Nous, ça veut dire quoi? Nous, ça veut dire notre neshama, quoi, si on peut parler comme ça. Notre neshama, qui normalement est un, qui, enfin, toujours, un chelek elokim mimal, c'est une partie de la divinité. Notre neshama, elle a perdu cette relation particulière avec Hachem. La neshama, ou le nefesh, bon, je ne vais pas maintenant entrer dans les différences, nefesh, ruach, neshama, etc. Bon, nefesh, en général, si vous voulez, c'est ma force de vie, en quelque sorte. C'est la vie qu'Hachem a mise en moi. Comme on dit sur la neshama tous les matins, neshama, shenata, tabi, teurai, etc. Cette neshama, qui est donc cette respiration divine en moi, qui crée un lien avec Hachem, bon, ça marche pas. Ça, on a fait ce qu'il fallait pour que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un chet. Chet, ça veut dire que on a fait quelque chose qui a détruit en quelque sorte notre neshama. Alors, la destruction de la neshama, c'est pas quelque chose qui est destructible vraiment au sens habituel du terme, mais ça veut dire que la neshama, elle n'est pas à sa place. Quand la neshama n'est pas à sa place, alors c'est ça qu'on appelle ça, ma neshama est détruite. C'est comme si ma force de vie, elle était à côté, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire que ma force de vie, elle est à côté? Ça veut dire qu'elle est, ma force de vie, elle est investie dans autre chose que ce pourquoi elle m'a été donnée. C'est-à-dire, mon intérêt, si vous voulez, c'est autre chose que ce pourquoi Hachem m'a donné la vie. Il m'a donné la vie pour que je m'intéresse à lui, pour que je m'intéresse au service d'Hachem. Et au lieu de m'investir là-dedans, je me suis investi dans autre chose. C'est ça les fautes. La faute, c'est pas... J'ai mangé quelque chose de bon, c'est pas ça le problème. Bien sûr que c'est interdit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'y suis plus. Du coup, je me suis disqualifié en quelque sorte. Je me suis investi dans autre chose que ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi l'énergie en question m'a été donnée. Et la tshuva, ça va être un effort pour retrouver ou pour remettre, restaurer mon nefesh à sa place, le remettre à sa place. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, on va juste faire un peu de rappel. Bon, alors, on sait très bien que la première faute, elle a été donc commise par Adam et Chava. Alors, Quand on regarde le texte, ça peut prendre. Ce qui est décrit, en fait, concernant la faute, c'est quoi exactement? Adam et Chava ont été créés par Hachem. Et le Nefesh HaChaim explique que créés par Hachem, Adam et Chava n'avaient strictement rien à voir avec le mal. Akadosh Baruch Hu a créé du mal. Il a créé du mal parce qu'il y a un principe. C'est un principe énoncé par Kohelet qui est dit « Zé l'oumad zé asa Elohim ». Elohim a créé ceci et cela en regard l'un de l'autre. En fait. En d'autres termes, il a créé le tov, le bien, il a aussi créé le mal. On pourrait dire grossièrement, pour apprécier le bien, il faut bien qu'il se distingue de quelque chose. Donc, à la limite, on a besoin du mal pour qu'on on peut penser comme ça. Le mal, il vient pour nous faire apprécier le bien, en quelque sorte. Un peu comme la lumière, s'il n'y a que de la lumière, on ne voit rien du tout. Seulement par rapport à l'obscurité qu'on va apprécier la lumière. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le mal, il a créé le bien. Bien entendu, il y a une différence entre le bien et le mal. C'est clair, on va y revenir. Tout le monde le sait, mais on va y revenir. Dans cette première séance, je vais parler de toutes sortes de choses. Sans toujours complètement développer, ça viendra après. C'est juste pour que vous ayez quand même une idée aussi claire que possible de où on va. C'est pas que je sache exactement où on va, mais bon, à peu près. Ce qui s'est donc passé au début, si je regarde la situation au tout début, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et il l'a placé dans le Gan Eden. Alors, je répète, Nefesh HaChaim explique que Adam et Chava n'avaient strictement rien à voir avec le mal. Rien, absolument rien. Mais il y avait le mal. Mais le mal était à l'extérieur d'eux. C'est le Nahash, le serpent. Il est à l'extérieur. Rien du tout. Rien, ça ne les concerne même pas. Lui, il est là, à l'extérieur. Mais c'est tout. Dans le Passouk, c'est marqué « Vayikach Hashem Elohim et Adam vayanicheu b'gan Eden l'ovda ou l'shomra. » Hashem Elohim a pris l'homme, il l'a placé dans le Gan Eden pour qu'il travaille et qu'il garde ce Gan Eden. On dit le Ovdo, le Shomro, c'est le Ovdo, c'est Mitzvah Tassé, le Shomro, c'est Mitzvah Tlota Assé. Bon, il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire. Vayetzav, Hashem Elohim est à l'Adam. Hashem Elohim a ordonné à l'homme. Il lui a dit les mots Mikol Etzagan Achol Toch. De tous les arbres du Gan Eden, tu mangeras. Peut manger. Ou mais et sa date tovara, mais de l'arbre, la connaissance bien et mal, tu ne mangeras pas. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Si tu en manges, tu mourras. Bon, ça c'était Adam, le Adam de départ. qui est Zahar ou Nekeva ensemble. À ce moment-là, Hachem a dit, bon, il n'est pas bien que l'homme soit tout seul. Et c'est l'Oezer Kenegdo. Et bien, il sert Hachem et le Mina Adam. Et il a Hachem et le Kim. Kol Chayat Asadev, Kol Ova Shamaim, Yaveh la Adam, Lirot Ma Ikralo, Kol Asher Ikralo Adam, Nefesh Chaya, Ushemo. Donc, Hachem a présenté toute la création animale devant Adam et Adam a nommé. Il leur a donné les noms. C'est-à-dire qu'en fait, il avait la connaissance de ce qu'était l'essence de chaque créature. Ensuite, il appelle Hachem Elohim Tardema à Adam, Vaishan, il fait tomber sur ce Adam un sommeil. Vaikach Achat Mitzalotav, il a pris un de ses côtés ou une de ses côtes. Mais il a refermé la chair dessous. Bon, maintenant, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez faire autre chose, mais ne mettez pas votre image, s'il vous plaît, c'est dérangeant. Vaiven Hashem Elokim et Tatsela Asher Lakach Mina Adam Leisha. Et il a construit le côté qu'il a pris de l'homme, il l'a construit en femme. La femme est une construction. Je ne connais pas l'homme. Va'evia el Adam. Bon, il l'a amené. Il a fait une chouba. Adam et cette construction là. Et Adam a dit bon, cette fois-ci c'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais, ce qui pouvait me compléter. Et il dit. Cette construction-là, on va l'appeler Isha parce qu'elle a été prise de l'homme, de Ish plutôt. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait, c'est bon, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alken, Yazov Ish est aviv et timo vedavak veishto. L'homme doit abonner son père, sa mère et coller littéralement à son épouse, à sa femme. Vayul Basar Echad, il faut qu'ils viennent d'une seule chair. Voilà. Ils étaient là tous les deux, Arumim. Tous les deux étaient nus. Adam Vishto. Mais ça les dérangeait pas. Il n'y avait pas de sentiment de gêne ou de honte ou de. Ve'anachash Arum, aya Arum. Là, vous voyez, c'est le même mot. Et le Nachash, lui, il était Arum. Arumim, ça le présente comme le pluriel de Arum. Mais le mot Arum veut dire à la fois nu et à la fois rusé. Comme on dit, rien dans les mains, rien dans les poches, je suis tout nu, mais c'est une ruse. Alors ce Nachash, là, il est là. Il est le plus rusé de toutes les créatures. Et voilà, il entreprend la causette, il fait la causette avec Aïcha, avec la femme. Il lui dit, Elohim, il a dit que vous ne devez pas en manger, vous pouvez manger d'aucun arbre du jardin. Et mépris à elle, sa chère, le Tochagan, Amar Elohim, l'Otochlou, Imenu. La femme, elle lui a répondu, pas du tout, on peut manger de tous les arbres, seulement il y en a un. Et puis elle ajoute, elle dit, il nous a dit qu'on ne pouvait pas en manger, on ne doit pas le toucher non plus, de peur de mourir. Elle a ajouté, il ne faut pas le toucher, ce qui n'avait pas été dit. Alors il y a une discussion pour savoir pourquoi elle l'a ajouté. Est-ce que c'est Adam qui lui a dit? Parce que lui, il aurait entendu quelque chose qu'elle n'a pas entendu et il lui a dit il ne faut pas toucher. Mais bon, c'est comme ça qu'elle va perdre la partie. Alors le Nachash, il continue à discuter. Il parle, l'Aïcha, l'homme mutun, vous n'allez pas mourir. Mais c'est Elohim, Lui, il sait que lui, il a mangé de cet arbre, c'est pour ça qu'il est Elohim. Il ne veut pas que vous en mangiez, pour que vous ne soyez pas comme lui, etc. Voilà, il fait la causette avec madame. L'espèce, on a l'impression que, voilà, il prêche le faux pour savoir le vrai, enfin, etc. Il sait très bien. Il parle. On a l'impression que c'est l'espèce de partie de tennis, là. Et chacun est au fond du cours, il renvoie, on attend qu'il y en a un qui fasse une faute. Alors le verset continue, il dit « Batera isha ki tov ha'etz le ma'achal, ri taveu le na'im » Il est bon à manger, il est désirable quand on le regarde. « Nechmad ha'etz le askil » Il est super, ça va ouvrir notre horizon, réfléchir. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. Et tout à coup, Chava, elle voit cet arbre, et cet arbre a l'air d'être super, il a des propriétés, il est très 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 désirable. Mais manger de cet arbre, c'était faire le mal. Ce qu'Hachem a dit, vous n'avez pas le droit d'en manger. Alors, le Nefesh HaChaim, il dit d'un côté que Adam et Chava n'avaient rien à voir avec le mal. Ce qu'il dit, c'est contraire à la Torah. La Torah, elle dit clairement que Chava, elle l'a trouvé super. Il avait toutes les bonnes qualités. Très étrange. Très étrange ici, c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Le Yetzera était donc, le Nahash, il était à l'extérieur. Ce qui s'est passé avec la faute, c'est que le Yetzer Hara, il est devenu intérieur. Elle a mangé ils ont mangé le mal, qu'il ne fallait pas manger. Et du coup, le Yetzer Hara est à l'intérieur aussi. Donc, au départ, c'était Zé, le Omad Zé. Il y a d'un côté la Kdusha, de l'autre côté le Ra, le mal. Le Nahash. Mais bien entendu, il faut dire la chose suivante. Il y a une profonde différence entre les deux. C'est vrai que ils se font face parce que pour des raisons d'équilibre, pour qu'il y ait un choix, une Bechira. Adam et Rishon avaient, Adam et Chava, ils avaient le choix. Il n'avait rien à voir avec le mal, mais il pouvait faire le mal. Il pouvait manger. S'ils n'avaient pas pu manger, ben rien ne se serait passé. Il pouvait manger. Mais le Nefesh HaChaim dit à ce sujet-là quelque chose de très étonnant. Il dit, ils avaient le choix, tous les deux, ils pouvaient le faire ou pas faire, mais le choix... C'était la même chose que de choisir d'entrer dans le feu. C'est un choix, ça. Entrer dans le feu, c'est un choix. Pas un choix. Qu'est-ce qu'il veut, le Nefesh HaChaim? En quoi est-ce que entrer dans le feu ou manger du fruit de cet arbre, c'était du même ordre? Mais le feu, tout le monde sait que ça brûle, que c'est destructeur. Et le passou qui dit que l'arbre en question, quand Chava l'a mangé, le fruit de cet arbre, il avait toutes sortes de bonnes qualités, toutes sortes de qualités appréciables. Il était beau, il était bon, il donnait l'intelligence, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit Nefesh HaChaim. Le problème de Vologine, il dit quelque chose là, c'est incompréhensible. « Alors, je pense qu'on pourrait dire les choses de la manière suivante. La différence qu'il y a entre le mal, entre le ra, entre le nahash et la kdusha, c'est la suivante. Vous savez probablement que on dit que les rechaïm, le chayehem, em nikraim metim. Les rechaïm, de leur vivant, ils sont déjà appelés morts. Et les tzadikim, ab mitatam, même quand ils sont morts, ils sont appelés chayim. Ils sont appelés vivants. Alors, je voudrais juste un peu essayer de réfléchir avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire que les rechaïm, ils sont appelés morts, même qu'ils sont encore vivants? Alors, sur la mort, on a déjà vu qu'il y a toutes sortes de formes de mort. Vous vous souvenez, Yaakov Avinu, quand il est parti de chez lui, il fuyait Esav. Esav pensait, Yaakov m'a piqué les brachot, il m'a piqué la prora. Rivka, elle l'a conseillé de partir. Yitzhak lui a donné l'ordre de partir. Mais Esav, il n'allait pas s'arrêter là. Il a donné l'ordre à son fils Eliphaz. Tu rattrapes tonton Yaakov et tu le tues. Alors Eliphaz a rattrapé Yaakov. Et quand Yaakov l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il est mal, je suis venu te tuer. Alors, il faut ajouter que dans le cursus d'Eliphaz, Eliphaz, il est allé étudier. Et ça va envoyer Eliphaz étudier. Et comme vous savez certainement, chez qui il l'a envoyé étudier? Chez tonton Yaakov. Et ça, il savait bien qui était Yaakov, il savait bien que si on veut étudier, c'est chez Yaakov qu'il faut aller. Donc il a envoyé Eliphaz étudier chez Yaakov. Donc Eliphaz est le neveu, mais aussi l'élève. Mais aussi l'élève de Yaakov. Alors Yaakov lui dit, écoute, bon, ton père t'a dit de me tuer, alors tue-moi, enfin, tue-moi. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un, c'est-à-dire de faire qu'il soit mort. En particulier, quelqu'un peut être économiquement mort. Si tu me détrousses complètement, tu me dépouilles complètement, je n'ai plus un sou, je suis économiquement mort. Tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. La Gemara, elle dit aussi que le Metzora, celui qui a dit de la Shonara et qui est frappé de la Touma qui s'appelle Tzara'at, traduit en général par la lèpre, que ce Metzora qui est renvoyé de tous les Machanot, il est en super quarantaine, ça ne dure pas 40 jours, mais c'est la quarantaine, ben lui, il est Khashouf Kemet, parce que socialement, il est mort. Il a de contact avec personne, personne ne peut lui parler. L'olénou, quelqu'un qui est aveugle, il est d'une certaine manière, il est aussi mort à un type de relation, etc. Donc, on peut être mort de toutes sortes de façons. Et donc, Yaakov a dit à Eliphaz, tue-moi économiquement. Et on voit nulle part que Esav est reproché à Eliphaz de ne pas avoir tué Yaakov à coup de couteau. Il a compris, ok, tu l'as tué, ça va. C'est pour ça que Yaakov, quand il est arrivé chez Laban, il n'avait rien. Que Laban ne pouvait pas comprendre, parce qu'il avait vu Eliezer avant, Ils viennent de la même maison et. Bon, il a dû se rendre à l'évidence, il n'avait vraiment rien. Donc il y a plusieurs formes de mort. Mais ces morts-là, Yaakov Avinu, tout économiquement mort qu'il était, il était extrêmement vivant. Bon, il était parfaitement vivant. Dans cet état-là, là, il a fini par construire le clan Israël à partir d'une situation où il était économiquement complètement mort. Donc, ces différentes formes de mort, elles nous disent qu'il y a aussi différentes formes de vie. Des vies dont une partie est amputée en quelque sorte. Les Rechaïm dont on parle, dont on dit que même quand ils sont vivants, de leur vivant ils sont appelés morts, on ne dit pas qu'ils sont morts au sens où on pourrait les enterrer. Ils sont appelés morts. Ça veut dire qu'ils ont une forme de vie qui est faible, qui est affaiblie. Il manque à leur forme de vie une dimension en quelque sorte, ou des dimensions. Alors, la Kedusha, le côté de la Kedusha, le bien, c'est une forme de vie complète. Même les formes de vie, il y a différents niveaux de Kedusha. C'est des différences de vie complètes. Il y a des vies complètes, vies super complètes, ultra complètes, etc. Et puis, il y a des formes de vie qui sont la forme de vie du mal, des Rechaïm, en fait, qui est une forme de vie incomplète. Dans la forme de vie Kedusha, qui est la forme de vie intense, si vous voulez, c'est une forme de vie dans laquelle on a un contact avec Hachem. Hachem est présent dans cette forme de vie. Ma neshama, elle est liée, très fortement liée à Hachem dans cette forme de vie. Le mal lui-même, en tant que tel, eh bien, il n'a pas une dimension super, il n'a pas une dimension, il n'y a pas une intensité de vie qui permettent à la présence divine d'être là. Bon, on est coupé de la présence divine. Le choix qu'on a, on va revenir sur cette histoire de comparaison avec le feu, mais le choix qu'on a entre la Kedusha d'un côté et le Nahash de l'autre, si on veut parler comme ça, et le mal de l'autre, c'est que ou bien l'homme qui était là, qui a le choix, il va du côté de la Kedusha, d'accord? Et donc, il intensifie sa vie, ou il va du côté du mal, et là, il va vers une espèce de vie amputée de l'essentiel, c'est-à-dire amputée de toute la spiritualité, de toute relation avec la source de vie. C'est comme s'il lui restait un espèce de résidu de vie, on pourrait dire, c'est pas une vie, quoi. Mais c'est un domaine, il y a un domaine du mal. Quand l'homme choisit d'aller vers le mal, il entre dans le domaine du mal. Et l'homme vient et il amène sa neshama. Donc, il rend, d'une certaine façon, le mal vivant. Le mal qui en lui-même n'a pas la forme de vie intense, la neshama de cet homme qui choisit le mal, il donne au mal de l'intensité de vie en quelque sorte. Le mal, quand il se présente, il a des super couleurs, il a une super musique. Il a toutes sortes d'attraits, sinon d'ailleurs il ferait pas le poids. Personne n'irait du côté du mal si le mal, on voyait qu'il était rien du tout. Donc il a toutes sortes de formes, mais d'une certaine manière c'est vide. Il n'y a pas vraiment de vie. Mais quand quelqu'un choisit d'aller vers le mal, il apporte la vie dans ce mal. Ce mal devient vivant. C'est Maneshama, c'est la Neshama de celui qui va vers le mal, qui devient l'étincelle de vie, d'une vraie vie intense, du mal. Le mal se met à être vivant par celui qui est allé du côté du mal. Donc, la neshama, elle est au mauvais endroit. La tshuva, ça va consister à aller chercher cette neshama, l'extraire du domaine du mal et la ramener à sa place, du côté de la kdusha. Parce que naturellement, étant donné que c'est un chelek elokam imal, sa vraie place, c'est du côté de la kdusha. Donc faire tshuva, c'est ramener sa neshama à sa place. La tshuva n'est pas au bon endroit. Le problème, c'est que le Nahash, quand il a gagné la partie contre Rava, c'est marqué Itilba Zohama. Il a déposé en elle une Zohama, c'est une espèce de pourriture, si vous voulez. Quelque chose qui fait que Chava, donc toutes les femmes, quand elles portent un enfant, cet enfant il baigne aussi dans cette Zohama. Cette Zohama, si vous voulez, c'est elle qui fait que la femme, elle met au monde des enfants qui sont mortels. Et cette Zohama, elle reste chez les êtres humains, donc. Elle reste même quand on a coupé le lien avec le Nahash. La trace du Nahash en Chava, c'est-à-dire dans l'être humain, elle va rester. Alors on sait qu'il y a eu un moment où cette Zohama s'en est allé. C'est un matin de Torah. Quand les Bnei Israël ont accepté la Torah, le changement a été tel que la Zohama s'en est allée, et du coup, les Bnei Israël sont devenus immortels. Le mal, le Yetzer Hara, c'est aussi le Malach HaMavet, c'est aussi la mort. La mort, elle est venue au monde, si on peut parler comme ça, par la faute. Hachem avait dit à Adam, si tu manges, tu mourras. C'est-à-dire, en fait, traduit aujourd'hui, c'est si tu manges, tu deviendras mortel. Et l'homme est devenu mortel. Et il y a eu un changement radical au moment de la Kabbalat HaTorah, où les êtres humains qui avaient accepté la Torah, donc les Bnei Israël, sont devenus, redevenus, comme Adam et Rishon avant la faute, immortels. Et donc, pourquoi ? Parce que la Zohama est partie. Mais avec la faute du veau d'or, qui est l'équivalent de la faute d'Adam, la Zohama, sans qu'il y ait eu un rapport quelconque avec qui que ce soit, d'accord, c'est pas comme ce lien entre le Nahash et Chava, la Zohama est revenue. C'est pourquoi nous sommes mortels. On est mortel, mais l'Atid Lavo, on redeviendra immortel. Parce que la condition humaine n'est pas d'être mortel. La condition humaine est devenue d'être mortel. Mais ce n'est pas la condition humaine tel que la Torah nous l'a décrit. Adam n'a pas été créé mortel. En d'autres termes, il n'y a pas de mal à l'intérieur de Adam Arishon au moment de sa création. C'est ce que le Nefesh HaRaim a dit. Ils n'ont rien à voir avec le mal. Donc, si vous voulez, la tshuva, ça va être une opération de récupération. Il faut sortir ma neshama de là où elle n'a pas à être. Toutes les forces qu'Hachem a mises en nous. Alors, toutes les forces d'âme, si vous voulez, toutes les forces du nefesh, du roar, de la neshama, etc. Toute la puissance qui a été donnée à l'être humain, elle lui a été donnée pour être mise au service de la avodat Hashem, au service du travail qui est fait pour Hashem. Par l'homme. Ça doit être mis au service d'eux. Par exemple, quelqu'un qui regarde, je ne sais pas, un spectacle de gens qui font des choses extraordinaires, que ce soit des athlètes ou que ce soit des acteurs ou peu importe. et qui prend plaisir à, d'accord, il apprécie cette, disons, la compétitivité des athlètes. Je vois les efforts qu'ils ont fait, le travail qui a été fait, c'est extraordinaire. Comment on peut maîtriser à ce point-là son corps, etc. Donc, cette capacité que j'ai d'apprécier ce travail extraordinaire, elle est cette capacité-là, si on l'investit dans ces domaines-là, on l'a mal investi. Parce que cette admiration, cette capacité de comprendre la valeur du travail, de la persévérance, d'aller au bout de soi, etc., ça doit être investi dans le service d'Hachem. Que ce soit pour faire certaines mitzvot, que ce soit pour l'étude de la Torah, n'importe, dans le service d'Hachem. Et donc, si je l'investis ailleurs, ça veut dire ma neshama, elle est ailleurs. Je suis ailleurs. Voilà, mon énergie vitale, mon énergie, au lieu de l'investir là où elle doit être investie pour me faire me rapprocher de ce pourquoi j'ai été créé, je l'ai mise ailleurs. Et quelque part, la tshuva, ça va être de récupérer ça, cet investissement au mauvais endroit, en quelque sorte, et le ramener au bon endroit. Alors, si la mitzvah de la tshuva, c'est le vidouille, la confession, ce ne sera pas possible de la faire si on n'a pas préalablement ramené la neshama au bercail, en quelque sorte. Parce que le problème, ce n'est pas que j'ai fait telle ou telle faute, tel acte fautif. C'est que cet acte fautif, il s'inscrit dans une démarche d'investissement à mauvais escient, en fait. Donc, le commencement, ça va être de ramener, d'abord il faut le reconnaître. Reconnaître, ça c'est pas du tout évident, reconnaître que mes fautes, elles ont investi ma neshama dans un domaine dans lequel elle n'aurait pas dû aller. Et elle vit là-dedans, ma neshama. C'est elle la force de vie de ce domaine-là. Parce que ce domaine par lui-même, il n'a pas d'intensité de vie, puisqu'on a dit c'est le mal. Mais il a une intensité de vie qui lui est donnée par moi-même. Quand moi je vais, enfin, par celui qui va faire cette faute. En fait. Le chet, c'est quand on a mal visé, en quelque sorte. Tu aurais dû diriger ton énergie dans une direction bien précise, et comme quelqu'un qui tire une flèche et qui manque le but, tu ne l'as pas tiré dans la bonne direction. Mais elle est arrivée, la flèche, dans la mauvaise direction. Donc elle est porteuse de ce dont elle était porteuse. Elle amène de la vie dans un endroit où il n'y en avait pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, le mal qui était une vie pas très intense, même s'il y avait beaucoup de couleurs et beaucoup de gens, mais en vérité, c'est un peu vide, tout à coup, c'est plus si vide que ça, puisque ça a l'air vivant. Et du coup, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que, du coup, ben, c'est, j'y suis entraîné. On peut le dire d'une autre manière, n'est-ce pas? Je peux très bien le dire en disant que, à partir du moment où le Yetzer Hara a été intériorisé, il est en celui qui a fait la faute. Donc, il participe désormais aux décisions que l'intériorité de cette personne va prendre dans la direction que cette personne va prendre par la suite. Donc, au lieu que de moi-même, le moi qui parle en moi, celui qui dit je en moi, qui, avant la faute de Adam Harishon, c'était un je qui, effectivement, ne pouvait pas de lui-même faire du mal, choisir le mal. Mais maintenant, tout à coup, le je, qui dit je en moi maintenant? Une composante du je, c'est le mal que j'ai introduit par la faute que j'ai fait en dernier, quoi. Lui aussi, il va participer au je, à celui qui décide du futur. Donc, si vous voulez, ça fait boule de neige, parce qu'il va inciter à faire d'autres fautes, qui elles vont entrer aussi, et du coup, on va être parasité jusqu'au point qu'on s'est à se demander qu'est-ce qui reste de la personne. Il est complètement, c'est presque une possession. Il est possédé par du mal qu'on a fait entrer. C'est comme si, dans un conseil d'administration, on faisait entrer un membre de la mafia. Ben, voilà, il va essayer d'influencer, peut-être il va arriver à faire en sorte qu'on fasse des choses. Ce conseil d'administration, il va prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises si ce membre-là de la mafia n'était pas dedans. Mais peut-être que, comme il est de la mafia, il saura corrompre les autres membres du conseil d'administration, etc. Et du coup, on va peut-être en faire entrer un deuxième, et puis un troisième, etc. Puis au bout d'un moment, ben, le conseil d'administration, c'est comme dans toutes sortes de pays où tout est corrompu, complètement. Ça n'a pas commencé tout de suite par la totale corruption. Et c'est petit à petit, ça a gagné. Parce que celui qui dit « je », cette personne-là aujourd'hui, c'est à 50% le Yetzer Hara. Et donc, évidemment, ça fait boule de neige, quoi.
Mais Rav, s'il est fusionné avec moi, il est fusionné, donc comment je vais pouvoir le traquer, l'identifier, puisque ma propre parole, ce que je vais voir, ma propre parole, ça va être mêlé à la sienne.
Ben, c'est pour ça que le problème de la tchouva est un gros problème. Mais, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la tchouva étant une mitzvah, alors, ça veut dire que Hachem dit c'est possible. Nous, comme vous le dites, on a un peu l'impression que c'est impossible. Mais ce n'est pas impossible. La preuve, c'est que c'est une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah impossible. Ça n'a pas de sens. Hachem ne nous a pas donné des mitzvot impossibles. Donc, mais puisque là, c'est possible, plan, ça sera très
sur
difficile.
Un plan humain,
c'est la même chose. C'est un plan humain, mais la tchouva, ce n'est pas simplement humain. C'est une mitzvah qui vient d'Hachem. Et Hachem, quand je veux faire une mitzvah, Hachem nous aide à faire les mitzvot. Alors, bien sûr, ça va être difficile parce que quand est-ce que je vais vouloir faire cette mitzvah? Je ne vais jamais vouloir le faire puisque le jeu en question, il est parasité complètement ou phagocyté par le Yetzer Hara. Bon, il faut dire qu'il y a probablement une étincelle, il y a quelque chose de divin en nous qui n'est pas corruptible. Et donc, ça, c'est un point d'ancrage qui va, à partir duquel je vais pouvoir faire tchouva. Je suis entré dans le domaine du mal. Mais on peut en ressortir. Il y a une réalité du mal. Cette réalité, c'est Rabbi Yochanan Leibovitz disait, le Mashgiach de Meir, il disait, c'est une metziut shel imetziut, une réalité de non-réalité. Alors c'est le vide, en fait. Mais ça se présente comme une réalité. Mais la réalité, elle vient de ce que celui qui a fait la faute, tu as donné à ce mal. Il lui a donné de la vie, en fait. Il lui a donné sa vie.
Mais ce n'est pas une illusion, il existe le mal. Même si c'est moi qui ai donné la vie. Mais
justement, ce qui existe, ça n'a pas de vie. Donc, si vous voulez, il a le mal en question n'est pas une illusion. Il y a une réalité de non-réalité, c'est un peu paradoxal. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la difficulté en fait.
Oui.
La difficulté, c'est que, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous dire, dans une première séance, un peu toutes sortes de choses, et puis ensuite on essaiera de clarifier, de comprendre un peu mieux. Mais je veux que vous sachiez d'abord un peu où on va. Alors, nous, le vidouille, la confession en question, du temps du Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol qui faisait la confession pour tout le monde. Et tout ce qu'il disait, c'était « Chatou, Avou, Pachou ». Lui, dans son vidouille, le Kohen Gadol, il disait pas ils ont mangé des choses interdites, ils ont oublié le Birkat Amazon, ils ont, etc. Il parlait pas de tout ça. Il disait de façon générale Chatou, Avou, Pachou. Chet, Avon, Pesha. C'est des degrés de faute. Jusqu'à la faute, faute maximale, Chaim, ça veut dire Pesha. Aujourd'hui, le mot pécha, c'est le mot qu'on utilise pour parler des gangsters. Quoi. Et la grande difficulté, c'est que la plupart du temps, nous nions que notre neshama soit fourvoyée. Ça veut dire, on dit, mais non, ma neshama, elle est parfaite. C'est vrai que j'ai fait des fautes, j'ai fait cette faute-là, celle-là, 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 celle-là. On est prêt à faire une longue liste de fautes. Mais ma neshama, elle est parfaite. Mais c'est pas vrai. Le Nefesh HaRaim dit que c'est pas vrai. Le Nefesh HaRaim dit que la neshama, elle est au mauvais endroit. Donc, quelque part, cette neshama, il faut aller la chercher. Là, il faut la ramener. Et donc, il va falloir, évidemment, trouver une stratégie pour récupérer cette neshama. Alors, pour s'investir dans le bien, on va aller regarder comment on s'investit dans le mal. Parce que là, la Torah, elle nous dit quelque chose. La Torah, je vous l'ai lu, en fait, je n'ai pas mis l'accent, mais je vous l'ai lu. La Torah, elle nous dit comment Chava, elle a fini par fauter. Comment c'est possible? Elle n'avait rien à voir. Pourquoi? Cause toujours, tu m'intéresses. Qu'est-ce que le Nahash? Pourquoi elle a écouté le Nahash? Pourquoi elle a dialogué avec lui? Il est entré en conversation, en quelque sorte. Il est entré en parole avec elle, en disant n'importe quoi. Et au lieu de le laisser causer, elle l'a corrigé. Tu dis qu'on peut manger aucun arbre? Pas du tout, on peut manger tous les arbres. Voilà. Elle a mis le doigt dedans. Elle lui a parlé. Ça veut dire, elle a parlé avec le mal. Elle avait fait aucun mal encore. Mais elle a créé un lien avec le mal. Alors, comment ça fonctionne? Nefesh HaChaim dit, que le mal, il n'a pas de vie en fait. Bon, il est plat, il est vide, il a de belles couleurs, etc., mais il est vide. Bon, Chaval savait bien qu'il était vide. Quand je dis qu'elle le savait, puisque ça ne l'intéressait pas du tout, elle n'avait aucun lien avec, possible avec. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Nahash? Il lui a dit, si tu mangeais, alors voilà ce qui se passerait. Tu serais, si vous mangiez, vous serez comme des dieux. Et Hachem, vous serez comme Hachem. Hachem, lui, il a mangé, les Midrashim qui disent qu'il lui a dit ça. Hachem, il a mangé du fruit, c'est comme ça qu'il est devenu Hachem. Peu importe. Hachem ne veut pas que vous en mangiez parce que vous allez devenir comme lui. Si vous voulez, cette idée qu'Hachem ne veut pas qu'on soit comme lui, cette idée, elle existe. Ce n'est pas une idée qui est complètement... Elle est fausse parce qu'elle n'est pas la motivation de l'interdit. Mais qu'Hachem ne veuille pas que l'homme soit comme lui. C'est marqué une fois qu'une des raisons sur le verset qui dit l'oto veyot adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il y a un midrash qui dit à ce moment-là, Adam était tout seul dans le monde d'en bas. Moi, dit Hachem, je suis tout seul dans le monde d'en haut. On va dire que de la même manière que moi je suis la divinité dans le monde d'en haut, lui il est la divinité du monde d'en bas. Être seul, c'est ambigu. Et pour cette raison, c'est le Hezer Kenegdo, ils seront deux, donc c'est terminé. Il n'y aura plus d'ambiguïté. Il y a un midrash qui dit que les anges, quand ils ont vu l'homme, ils ont cru, ils ont fait des louanges comme si c'était Hachem. Parce que l'homme qui a créé Betzalel Elokim, quand on réfléchit, comme le Nefesh HaRaim l'explique par exemple, à ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est à l'image? C'est pas que Hachem a une image. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pouvoir gigantesque qu'Hachem a donné à l'homme. Incroyable pouvoir qu'il a donné à l'homme. Quelque part, c'est comme David Ameller dit, le Navi dit, j'ai pensé que vous étiez les Elohim, et maintenant j'ai vu que vous avez fauté, donc vous allez être des hommes, vous allez être mortels. Donc si vous voulez, l'idée que Hachem ne veuille pas qu'il y ait une ambiguïté, elle existe. Mais ce n'est pas pour ça qu'Hachem a interdit de manger de l'arbre en question. Mais ça veut dire que l'ambiguïté du discours du mal, c'est d'utiliser des phrases qui ne sont pas visiblement impossibles ou visiblement fausses. il y a une ambiguïté parce que quelque chose de la phrase en question est vrai. D'une certaine manière, peut-être. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a représenté ce qui se passerait si elle mangeait. Et donc, dans sa tête, il y a eu un moment dans sa tête. Dans la tête, la faute, elle existait. Sous forme d'une représentation mentale, si vous voulez. Il lui a fait penser à ce qui se passerait si elle mangeait. Donc, de penser ce qui se passerait si elle mangeait, ça veut dire, quelque part, manger, qui était absolument impossible à penser, est devenu pensable. Et parce que c'était pensable, c'est devenu réalisable. Et ça, a priori, c'est comme ça que fonctionne le Yetzirah. Le Yetzirah, son pouvoir commence toujours par fabriquer une image de la transgression. Même comme une possibilité très lointaine, bien sûr, non, pas du tout, je ne sais pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passerait? La transgression me donnerait comme jouissance. Qu'est-ce que la consommation de cette drogue va me donner comme jouissance? Qu'est-ce que le rapport avec le conjoint de l'autre pourra me donner? Et donc, il faut fabriquer pour le mal. La Torah nous a dit, comment est-ce que c'était possible? Ben, c'est venu de ce fameux dialogue lors duquel le Nahash a parlé de la situation. Si vous en mangiez, alors voilà ce qui se passerait. Un instant, s'il vous plaît.
Ah, pardon.
Si vous en mangiez, vous deviendriez des dieux, en fait. Voilà, rien moins que ça. Et quelque part, bien sûr que si elle avait pu... elle n'était pas cuite encore. Elle n'était pas perdue encore. Mais voilà, ça devenait possible. Et ensuite, il lui a montré que ce qu'elle avait dit était faux. Parce qu'elle a dit qu'on n'avait pas le droit de le toucher. Alors le Midrash dit qu'il l'a poussée, elle a touché l'arbre, il ne s'est rien passé. Alors il lui a dit, tu vois bien, c'est pas vrai. Tu as touché, il ne s'est rien passé. Et donc, tout est faux. Et là, c'est la deuxième stratégie, c'est de ne pas laisser le temps de réfléchir. Parce qu'elle aurait pu lui dire, non, il nous a dit que si nous touchions, c'est-à-dire si volontairement je touchais, je n'ai pas touché volontairement, tu m'as poussé. Ça ne fonctionne pas comme une ligne à haute tension. C'est vrai que sur une ligne à haute tension... que tu touches parce que tu as voulu ou que tu touches parce qu'on t'a poussé, ça fait le même effet. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et a priori, Hachem, il nous parle à nous, il nous a parlé, donc même ça, même si je l'entends comme ça, bon, c'est seulement si volontairement on touche. Je n'ai pas touché volontairement. Mais il ne lui a pas laissé le temps de réfléchir. Ça, c'est aussi cette histoire. Le Yetzer Hara, il te donne tout de suite l'explication, le commentaire de la chose. C'est-à-dire, il ne te laisse pas voir le fait lui-même. On avait parlé de ça quand on a parlé des Meraglim. Il ne te laisse pas voir le fait lui-même dans sa nudité. Il t'en donne une explication. Et tu n'as pas le temps de voir que son explication n'est pas la seule explication possible. Et c'est ça. C'est comme ça qu'elle est tombée complètement. Parce qu'effectivement, ce qu'elle avait dit était faux, elle croyait, et puis et c'était pensable. Et donc, ce côté, donc ça c'est la chute. Donc, ce qui est important, c'est cette idée de construire une représentation mentale de quelque chose qui par ailleurs apparaîtrait comme impossible. Et comme disait Claudine, effectivement, la tchouva, elle est impossible. Mais je peux construire une représentation mentale dans laquelle elle est possible. La Torah, elle me dit que c'est possible. La Torah, elle me fabrique la représentation. C'est possible. Et du coup, parce que c'est possible, c'est pensable, alors ça peut se réaliser. Si ce n'était pas pensable, on ne pourrait pas le réaliser. Mais la Torah l'a rendu pensable. Et c'est ça la mitzvah de Tshuva. Quand Hachem me donne une mitzvah de faire Tshuva, il me dit que c'est possible de faire Tshuva. Et bien qu'on ait expliqué largement, c'est incomplet, mais on a déjà à peu près expliqué pourquoi c'est quasiment pas pensable. C'est quasiment. Mais Hachem a donné la possibilité de penser. La tchouva, hein, la mitzvah de tchouva, elle me permet de penser ça. Je peux le penser et par conséquent, je peux le mettre en œuvre. C'est pas que ça devient facile. Mais c'est faisable. Je peux décider de faire tchouba. Alors, et ensuite, alors après, il y a encore quelque chose d'autre. Il y a le problème de la siyata d'Ishmaïa, l'aide qui vient. Le ciel qui va aider, qui doit m'aider. Sans ça, on n'y arriverait pas. Mais ça, de toute manière, c'est... Razal disent que tous les jours, le Yetzer Hara, il a une autre stratégie. Et si, donc on est, d'une certaine manière, on est toujours une guerre en retard dans la lutte contre le Yetzer Hara. Donc on va toujours perdre. Mais, Loulé Hachem, si c'était pas que Hachem nous aide, on n'y arriverait pas. Hachem nous aide. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lutte contre le Yetzer Hara, tout ce qu'il faut arriver à produire, c'est une volonté. Ensuite, la réalisation, c'est, on peut presque dire ça même, c'est pas même mon problème, quoi. C'est la Siyata d'Ishma, c'est Hachem à se débrouiller pour. Moi, je veux. De toute manière, on peut rien faire sans l'aide d'Hachem. Donc, Hachem, il a qu'à ensuite, il va arranger les choses. Mais il faut produire ce je veux. Or, le « je veux » est difficile, puisque le « je » il est entièrement parasité, phagocyté, etc. Mais il y a toujours, il reste quelque chose. Les Hassidim, ils appellent ça un « pintele », c'est un petit point de la présence divine dans l'être humain. Alors, c'est ce qui va permettre, effectivement, de s'accrocher, en quelque sorte, et de sortir cette neshama, de la ramener à sa place. Une fois qu'on a obtenu cela. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors, pour ça, il va falloir quelque chose qui s'appelle Yirat Shamayim. Mais, littéralement, on traduit ça par la crainte du ciel. Mais, quand le mot crainte, en fait, Il est un peu ennuyeux parce que la crainte, c'est un peu paralysant. Or, la Yirat Shamayim, c'est justement pas quelque chose qui est paralysant. La Yirat Shamayim, c'est justement quelque chose qui doit pousser à l'action. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience, peut-être, de la grandeur divine et de ce que le divin Hachem m'a créé. Je suis une créature d'Hachem, c'est ça, et que par conséquent, j'ai des choses à faire. Alors, je dois le faire. Je vais le faire parce qu'Hachem m'a créé pour que je puisse le faire. C'est ça le point fondamental. Alors, il va falloir travailler sur la Yirat Shamayim. Alors, c'est intéressant parce que la Yirat Shamayim, la gematria de Yirat, c'est la même gematria que Torah, c'est-à-dire 611. La Torah, sa valeur numérique, c'est 611, parce que ça correspond aux 611 mitzvot que Moshe Rabbeinu nous a données. Parce qu'on a reçu deux mitzvot directement d'Hachem, ça fait 613. Mais Anochi lo yelecha, on a entendu directement d'Hachem. Le reste, ça passait par Moshe. Donc, le mot Torah, quand on dit Torah Tzivanan Moshe, c'est les 611 mitzvot que Moshe Rabbeinu nous a donné. Le reste, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et la gematria de Yirat, c'est Torah. C'est aussi la même gematria que Kshura, qui veut dire lié. Et toutes les mitzvot sont liées, elles forment un tout. Mais ça, on va y revenir. En fait, le travail qu'on doit essayer de faire, c'est d'entrer effectivement dans ce processus de tshuva, d'essayer de voir un peu plus clairement comment on peut arriver à faire tshuva. Et ensuite, comprendre le vidouille tel que nous le faisons. Je vous ai dit, le vidouille du Kohen Gadol, il n'entrait pas dans les détails. Il disait pas Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. Nous, on dit Hachamnu, Bagadnu, etc., c'est par ordre alphabétique. Et puis ensuite, il vient le Chayei Adam et d'autres qui ont dit toutes les fautes qui commencent par Aleph, toutes les fautes qui commencent par Bet. Toutes les fautes commencent par guillemets, etc. Mais cette liste-là, elle ne veut pas dire grand-chose. Si on n'a pas fait préalablement un travail pour ramener la neshama au bon endroit, alors c'est comme si on niait le travail qui doit être fait et qui était vraiment ce que faisait le Kohen Gadol quand il disait sur les Bnei Israël que Chatou Avou Pachou, c'était un état des choses, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans le Chet, dans le Avon et dans le Pécha, et ça cause, c'est ça qui a fait que leur neshama n'est plus à sa place. Alors, le détail des fautes, bien sûr, il a son importance, mais il est tout à fait secondaire par rapport à l'essentiel que ma neshama n'est pas à sa place. C'est-à-dire, ma force de vie est pas, je l'ai pas en moi. Donc, elle est pas, ma force de vie, elle n'est pas mise au service d'Hachem. J'investis ma force de vie dans autre chose. On dit aujourd'hui très clairement qu'il y a des gens qui se sont investis dans tel et tel domaine, etc. Ouais, très bien, ils ont investi. Ils ont investi toute leur vie. C'est vrai que les gens, très souvent, ils ont vraiment donné leur vie au sens, ils ont sacrifié leur vie de famille, sacrifié leur loisir, sacrifié leurs rêves, et tout ce que vous voulez. Tout ça parce qu'ils l'ont mis au service de telle et telle chose. Les grands les grands athlètes ou comme ça, au moins dans une phase de leur vie, en tout cas, ils sont obligés de tout sacrifier pour ceux qu'ils pour leur sport, par exemple. Ils sont pour rien, ils sont pas là. Alors cette idée de sacrifier toute sa vie pour quelque chose, oui, la Torah elle dit la vie qui m'a été donnée, elle est pour être au service d'Hachem. Nous sommes des avadim d'Hachem. Un avad, il n'est pas maître de sa vie. C'est son maître qui lui dit ce qu'il doit faire. Alors son maître, il le prend en charge, il lui donne à manger, à boire, etc., tout ce qu'il faut. Mais il lui dit tout ce qu'il doit faire. Et il lui impose de faire les travaux qu'il lui impose. Là aussi, si les gdolés, si vous voyez la vie des gdolés, vous voyez très bien qu'ils se sont complètement sacrifiés pour les mitzvot ou pour l'étude, etc., dans lesquels ils se sont investis. Et donc là, il y a un bon usage de l'investissement total, si on peut parler comme ça, et un mauvais usage. Et la tshuva, elle vient de ce que, d'une certaine manière, on a fait un mauvais usage. Alors chacun à son niveau, bien entendu. Les gdolim, ils font tshuva aussi, pas pour les mêmes raisons que nous, d'ailleurs. Parce que... Bon, voilà, peut-être ils manquent un peu dans leur investissement, je ne sais pas. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous écoute.
Sur la fabrication des pensées mauvaises, on a dit aussi que les Bnei Israël étaient restés longtemps en Égypte et qu'ils avaient eu le temps de s'imprégner de tous les concepts égyptiens. Nous-mêmes, on est dans une société où il y a toutes sortes de concepts qui nous imprègnent. La vraie faute, on est bien d'accord que c'est de l'associer à une forme de jouissance. C'est pas le simple fait d'en avoir conscience ou de le savoir ou d'en être entouré.
Il faut en prendre conscience d'abord. Si on prend pas conscience, fait rien. Il faut en prendre conscience et essayer de faire ce qu'on peut pour se soustraire à cette influence. D'accord, ça veut dire, là, c'est un classique, la Gemara, elle rapporte, Hazal, les Bnei Israël disent à Hachem, ils disent, Retsonenu lasot retsoncha, notre volonté, c'est faire ta volonté. Ah, et pourquoi ça ne marche pas? C'est Seor Shebeissa, Veshibud Malchuyot. Littéralement, ça veut dire, le levain dans la pâte, c'est l'Yetzerara intérieur, parce que maintenant on a quand même un Yetzerara qui est pénétré. Et puis, Shibud Malchuyot, c'est la dépendance que nous sommes dans laquelle, par rapport au Goïm, qui, à cause du Goïm, on ne peut pas faire tout ce qu'on devrait faire. Alors, il faut lutter dans toute la mesure du possible et effectivement, essayer de savoir que, d'abord, il faut vraiment vouloir. On peut vouloir, je vous dis, on peut vouloir. Et après, il faut essayer de voir comment on fait, puisque, comme vous dites, on a conscience qu'on n'est pas obligatoirement dans le meilleur environnement. Vous comprenez, aujourd'hui, par exemple, tout le travail qui est fait par la sphère des médias, etc., pour mettre dans la tête des trucs impensables. Aujourd'hui, on met dans la tête des gens des choses, des trucs absolument incroyables. Et souvent, les gens sont sans défense parce que parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'on les manipule, parce qu'ils n'ont pas compris que les gens sont corrompus, qu'il y a des pervers de toutes sortes, etc. Et ils avalent, comme si c'était des vérités, n'importe quelle bêtise qui est propagée, etc. Puis à part ça, il y a des modes. D'accord. On peut commencer tout à coup à enseigner aux enfants que ben, ça n'existe pas. On n'est pas ni un homme ni une femme. Ça dépend. Autre chose. C'est possible. Et aujourd'hui, ça s'enseigne à l'école primaire à Paris.
Raph, comment ça se fait qu'il n'y a pas un phénomène de rejet, puisqu'à l'intérieur de moi, j'ai une Kedusha, puisque je suis Tselem Elohim, puisque j'ai le souffle divin, c'est pour ça que j'existe. Dans le corps humain, quand il y a un corps étranger qui vient, il y a l'organisme qui se cohorte pour l'enquister. Il y a des manifestations qu'on veut le chasser. Là, on lui ouvre les bras. Comment ça se fait ?
Qui dit qu'on lui ouvre les bras ?
Malgré moi, ça...
Qui Pardon. Dit qu'on lui ouvre les bras ?
Ben, la
Mais Tara, il est très, très rusé. Et là, vous voyez bien que Rava, elle ne lui a pas ouvert les bras. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'en lui parlant, elle fabriquait un lien. Et à travers ce lien dont elle pouvait penser, même si elle a pris conscience que je suis en train de lui parler, mais j'en ai rien à faire, il est rien, il est vide, etc. Elle ne s'est pas rendue compte que subrepticement, il a fait entrer en elle cette possibilité de manger quand même de ce fruit. Sous la forme de imagine ce que ce serait si tu en mangeais.
Mais si ça prend autant, effectivement, c'est parce que il y a le réceptacle en moi. Sinon, ça ne prendrait pas. Il me donne une réalisation.
Ça, c'est la brira. Si Hachem avait construit un homme qui ne peut pas tolérer, ben, il n'y aurait plus de brira, on serait des robots. C'est terminé.
Donc, développer dans ce que vous nous avez enseigné ce soir-ci, c'est important de développer. Il faut être toujours présent, quoi. La présence à soi, constamment.
La conscience de où est-ce que je m'investis ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Bon, c'est un commencement, on verra si on peut dire un peu plus de choses la prochaine fois. Bonne soirée.
Merci, Raph.
Bonne semaine.
Merci.
Semaine.
Merci beaucoup.
Merci Raph, bonne soirée.